Cette semaine, j'étais donc avec les leaders de l'Église méthodiste du Canada pour un temps justement de réflexion pour, avec l'équipe nationale, avec l'évêque, pour voir aussi ce que le Seigneur voulait aussi pour notre Église pour la suite. C'était vraiment un temps béni parce que nous voyons que des choses se passent. Nous voyons qu'à travers le Canada, oui, c'est vrai que le christianisme change. On voit comment que les églises aussi se vident. On a perdu aussi quelques églises dans ces dernières années dans l'église méthodiste. Mais on voit ce désir, ce renouvellement, ce désir de revitaliser l'église. Et donc, on regardait, on priait, on planifiait, on regardait les possibilités de comment avancer. Et on est en train de mettre un plan en place et je suis vraiment encouragé de voir l'équipe nationale, notre évêque aussi, qui travaille fort pour pouvoir permettre d'avancer. Et c'est assez intéressant puisque c'est un peu le thème que nous allons avoir aujourd'hui, c'est « Levons-nous et bâtissons ». Levons-nous et bâtissons. Nous allons voir comment que les dirigeants de Jérusalem ont pu faire une telle déclaration du temps de Néhémie. Donc, mais avant tout de voir comment ils sont arrivés à cette déclaration, regardons un peu, justement, un peu en arrière. Donc, prochain dia. Donc, on a vu que Néhémie, justement, est arrivé à Jérusalem. Et pendant quelques jours, il reste silencieux de sa véritable mission. Avant de faire une chose importante, il avait besoin de simplement explorer les murailles, de voir exactement le travail, d'examiner, regarder, d'observer. Il l'a fait de nuit pour ne pas éveiller des soupçons. Et de pouvoir prendre aussi le temps d'écouter le Seigneur. C'est vraiment, je crois, le temps de pouvoir être à l'écoute, de préparer le travail que Dieu voulait lui donner. Dans toutes ces heures qu'il était seul, il a pu comprendre ce que Dieu voulait lui dire. Comment commencer? Quoi faire? Comment le faire? On a vu l'important justement que d'avant de commencer un travail dans la mission que Dieu nous confie, il faut examiner le travail à faire. Il faut réfléchir quelle est la meilleure méthode à faire. C'est un temps pour écouter Dieu. On doit le préparer dans la prière et dans le jeûne, dans l'humilité, dans l'écoute du Saint-Esprit, afin d'examiner justement l'état des murailles de notre propre vie, comme celle de l'Église, afin de voir, de comprendre les brèches qu'il y a et comment les réparer. On doit examiner, écouter le Saint-Esprit, afin de voir comment relever, rebâtir ce que nous avons perdu dans notre Église, ce qui a besoin d'être restauré, pour que notre Église soit un lieu où la présence de Dieu agit avec puissance et transforme des vies. Prochain diable, donc, on a vu que l'ennemi, après avoir prié et jeûné, observé les murailles, écouté Dieu pour lui donner la stratégie, maintenant il est prêt d'aller vers les dirigeants. Alors, ouvrons notre Bible dans Néhémie chapitre 2, versets 17 et 18. On va voir maintenant qu'est-ce que Néhémie va faire. Hein? Depuis un certain temps, il a prié, il a examiné. Maintenant, voici ce qu'il va faire. Et Néhémie chapitre 2, versets 17 et 18, il dit, « C'est alors seulement que je leur dis, vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans une situation humiliante. » Verset 18. « Je racontais ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté. Et je racontais ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt, « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. » Donc, regardons dans le verset 17. Premièrement, Néhémie va exposer les faits. Vous voyez vous-même quel est notre malheur. Donc, les dirigeants et le peuple de Jérusalem connaissaient l'état de situation de la ville, les conséquences sur eux. Ils sont dans le malheur. Rien ne se fait. Ils sont comme bloqués. Et ça les impacte sur leurs états psychologiques et spirituels. Donc, devant le travail à faire de reconstruction, devant les ennemis qui les découragent, le peuple est comme désemparé, sans force, sans avenir. Imaginez un peu la scène. On voit souvent, malheureusement, dans ces derniers temps, des images de télévision, de lieux où il y a la guerre, où tout est détruit. Et le peuple est là, ne peut rien faire, en désolation. Devant cette désolation, ils sont désemparés. Des fois, on peut avoir peut-être la même pensée par rapport à notre propre vie. devant un malheur qui est survenu sur notre vie, devant une épreuve qui est arrivée, on est des fois comme figé, plus capable d'avancer. Ensuite, justement, Néhémie va dire « Jérusalem est en ruine ». Donc la ville qui devait les protéger, leur donner une véritable estime ou un prestige, tout est détruit et ils sont sans force. Donc le peuple regarde autour d'eux et ils sont anéantis devant l'ampleur du désastre. Il n'y a plus de protection comme peuple par les murailles. Il n'y a plus de vie sociale et communautaire par les portes détruites par le feu. Souvent nous pouvons avoir peut-être le même constat par rapport à notre vie personnelle, notre vie familiale. Peut-être que justement, nous n'avons plus le rempart du travail, du cadre familial, alors nous venons sans force, sans enthousiasme, sans espoir. Et c'est vrai que ça peut être la même chose aussi pour l'Église. L'Église vit des hauts et des bas. Mais on peut peut-être dire devant toute la situation qui peut se passer, qu'on est sans espoir. Comme Jérusalem est en ruine. Ensuite, Néhémie va dire dans la prochaine phrase, « Reconstruisons pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. » Donc Néhémie va dire que la reconstruction avant tout ne doit pas être dans une situation humiliante, dans le déshonneur, dans la honte. Il a vu justement que tout ce qui ça a mené comme poids de souffrance sur le peuple. Et voilà pourquoi il dit « Reconstruisons pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. » Pour notre vie, s'arrêter dans le malheur ou juste peut-être s'apitoyer des choses difficiles qui nous arrivent ne permet pas d'avoir la force de reconstruire, de restaurer, de relever, de réparer comme on l'a vu dans le verset 12 d'Ésaïe 58. Il faut sortir de cette situation qui nous pèse, qui nous fait tomber dans le désespoir. Il faut être prêt à se relever, se retrousser les manches, même si tout autour de nous, c'est le malheur, c'est le désespoir. Et c'est vrai que peut-être autour de nous, avec tout ce qui se passe, avec tous les bruits que nous entendons, l'économie, ce que nous entendons aussi avec le gouvernement par rapport aussi à la laïcité, tout ça, on pourrait dire, mais quelle est notre chance, quel est notre espoir de continuer? C'est vrai que si on s'arrête là, au verset 17, comme les dirigeants de Jérusalem, ils avaient déjà entendu ce genre de constatation par d'autres personnes. Et peut-être qu'ils se sont dit, quand ils ont entendu Néhémie, « Ah ben ça y est, c'est une nouvelle personne qui vient nous dire la même chose, que nous sommes dans le malheur, nous sommes dans le désespoir. » Ce sont juste des paroles, ce sont juste des choses théoriques, mais rien va ne changer. Peut-être c'est vrai qu'ils ont eu ces pensées, mais lorsqu'ils entendent la suite au verset 18, c'est là que les choses vont changer. Donc Néhémie ne vient pas juste avec un plan de reconstruction, et un beau discours pour se mettre au travail. Il démontre que son plan est réalisable parce que Dieu est avec lui. On voit deux choses. Néhémie va leur témoigner comment que la main bienveillante de Dieu était sur lui. Le premier point est la main de Dieu sur la personne. Parce que j'arrive plus à...
Est-ce que c'est pas ton écran?
Ok. Donc le plan de Néhémie, il va leur témoigner comment que la main de Dieu était sur lui. Lorsqu'on voit comment qu'une personne, que Dieu veille sur elle, comment que cette personne est bénie par le Seigneur, alors oui, c'est vrai que nous sommes encouragés d'avancer. Nous sommes d'accord de travailler avec cette personne, parce qu'on voit comment que Dieu est avec elle. Et là, on voit que ce n'est pas juste la théorie, que c'est réel, que c'est tangible de voir les résultats de ce que Dieu fait avec cette personne. Vous savez, lorsqu'on voit peut-être, que, par exemple, une personne qui vient de se convertir, d'être changée dans sa vie, de la drogue, de l'alcool ou d'une mauvaise vie, c'est vrai qu'on est encouragé. C'est vrai qu'on aimerait se mettre à côté d'elle parce qu'elle nous encourage, elle nous fortifie par, par ses encouragements, par sa vitalité, sa vigueur qu'elle a. Lorsque nous venons à l'église, nous sommes aussi encouragés par nos frères et sœurs. Afin de par leur mot, par leur témoignage de ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Ça nous permet de reprendre courage pour affronter donc les temps difficiles. Le deuxième point, il va leur témoigner ce que l'empereur lui a donné comme responsabilité. À ce moment-là, le roi était vraiment la personne centrale de tout le peuple, de toute la région. Et ce que l'empereur disait ou ce que l'empereur donnait comme responsabilité à quelqu'un, c'était quelque chose de très important à respecter. Ce n'est pas juste un Néhémie qui est illuminé, qui dit que la main de Dieu est sur lui. Mais concrètement, Néhémie vient avec une crédibilité. Dans le sens qu'il a travaillé avec l'empereur. Il a été à sa cour pendant les années. C'était les chansons du roi, donc on l'a dit, une personne importante. Il a reçu les lettres pour pouvoir faire les travaux nécessaires, pour pouvoir avoir les autorisations pour passer. Néhémie n'a pas eu la crédibilité juste lorsqu'il a pris la désolation de Jérusalem. Mais durant des années, bien avant, il était un homme juste, un homme droit, un homme qui effectuait bien son travail devant le roi. Voilà pourquoi de l'importance de notre témoignage, de notre crédibilité envers les autres. Que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre vie personnelle. Et ça se fait par notre témoignage. Nous devons avoir cette même attitude que Néhémie. Cette personne qui est juste, qui est droite dans les valeurs de Dieu, devant les autres, au travail, et jour après jour. Et nous savons qu'un jour, la récompense sera là. Lorsqu'une personne vient justement avec ces deux aspects, la main bienveillante de Dieu et l'approbation des autres, alors il y a un impact. Il va se passer quelque chose. Voilà pourquoi que les dirigeants de Jérusalem s'écrient aussitôt « Levons-nous et bâtissons ». Les dirigeants ont perçu justement dans Néhémie un homme qu'ils ne connaissaient pas forcément, un homme béni par Dieu, un homme qui a été envoyé par le roi. Alors ils ont adhéré au projet de reconstruire la muraille. Ils ont vu dans cet homme quelque chose de différent. Peut-être que d'autres hommes, d'autres personnes qui sont venues avant lui. On voit qu'ils n'ont pas simplement dit de se lever et reconstruire. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Ils s'encouragèrent dans ce projet. Peut-être dans ce groupe de dirigeants, il y avait peut-être des sceptiques. Des personnes c'était plus difficile à convaincre. Oui, on a déjà entendu ce refrain plusieurs fois. Il y a plusieurs personnes qui sont venues, qui ont dit qu'il fallait reconstruire, qu'il y avait des bons plans, mais rien ne s'est fait. On est toujours arrêté. Mais le fait d'être ensemble, le fait de s'encourager, va permettre que ces personnes vont aussi embarquer dans le projet. La semaine passée, justement, on était chez la famille d'Hermann et de Clémentine, et on a vraiment vécu un très bon temps. J'ai vu vraiment cette année l'importance de ces temps de fraternité, les uns avec les autres. On voyait cette joie d'être ensemble, de pouvoir partager sur différents sujets, de voir les enfants s'amuser ensemble. Ces moments ensemble nous permettent justement de nous encourager, permettent d'être unis afin d'avancer dans le projet que Dieu a pour nous et pour notre Église. Alors qu'ensemble nous puissions dire, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et rebâtissons sur les ruines, comme on le voit dans Isaïe 58, 12. Levons-nous et relevons les fondements posés de l'Église instaurés par les disciples de Jésus. Levons-nous et réparons les brèches dans le royaume de Dieu sur terre, dans son Église. Et levons-nous et restaurons ce qui a été abîmé. Nous devons nous encourager les uns les autres dans ce travail à faire. Et si nous sommes dans la prière, dans l'écoute du Saint-Esprit, alors le Seigneur va nous donner la victoire. Donc maintenant, on peut dire que le peuple est prêt, les dirigeants sont prêts et que le travail va se commencer. Mais regardez qu'est-ce qui se passe au verset 19. Regardez qu'est-ce qui se passe au verset 19. Lorsque Sambala, le Horonite, Tobia, son adjoint Ammonite et Geshem, l'Arabe, l'apprirent, ils se moquèrent de nous et viennent nous dire d'un ton méprisant, « Qu'êtes-vous en train de faire? Vous voulez vous révolter contre l'empereur ?» Donc ces personnes se moquent du peuple de Jérusalem, de leur ambition de reconstruire la muraille. Mais ils vont plus loin en disant que les habitants de Jérusalem veulent se révolter contre l'empereur aussi. Ces attaques sont simplement pour décourager le peuple d'Israël dans sa volonté de redevenir un peuple uni, fort et qui n'est plus dans le malheur. Dès que nous sommes encouragés dans le travail pour Dieu, dans le projet que le Seigneur nous donne, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Quelqu'un qui veut tout faire pour tout faire dérailler le projet. afin que le travail de Dieu ne se fasse pas. Notre ennemi Satan va utiliser toutes sortes de stratèges, par des personnes ou par des attaques personnelles, afin qu'on ne se lève pas pour bâtir. Mais regardez ce que l'ennemi va dire au verset 20. Mais je lui répondis, le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruisons la ville. Quant à vous, n'avez aucune priorité ni aucun droit dans Jérusalem. Et personne ne se souviendra de vous avec considération. Oui, l'oppression était là. L'ennemi voulait faire arrêter le travail. Mais on voit dans ce verset 20 la réponse donc de Néhémie. Néhémie dit devant ceux qui se moquent d'eux que le peuple d'Israël sont les serviteurs de Dieu. Et que cette connexion avec Dieu, le Seigneur fera réussir ce projet de reconstruction. Il rappelle devant leur ennemi que ce n'est pas leur sagesse ou leur force qui va faire réussir le projet, mais Dieu lui-même. Et Néhémie va juste aussi dire à ces personnes qui se moquent d'eux qu'ils n'ont pas le droit à Jérusalem et qu'à cause de leur attitude de moquerie, personne ne va se souvenir d'eux. Puisqu'ils sont là pour décourager le peuple dans la reconstruction, ils n'ont pas le droit sur Jérusalem. Même s'ils étaient des dirigeants, des responsables dans la région. Et en plus, Néhémie va leur dire que personne ne va se souvenir d'eux, puisqu'ils étaient là juste pour décourager le peuple et se moquer d'eux. Donc, devant notre ennemi qui veut nous décourager, faire arrêter l'ouvrage du travail de Dieu, de dire que ce n'est pas à nos propres forces que nous allons effectuer le travail, mais parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous avons besoin de dire devant l'ennemi que nous sommes ses serviteurs, ses servantes, que nous sommes les enfants de Dieu qui ont reçu la force et la puissance du Saint-Esprit et qu'avec la foi en Dieu, nous allons nous lever et bâtir le royaume de Dieu sur terre, que nous allons bâtir l'église de notre Seigneur. Même si notre ennemi vient avec toutes sortes de ruses et d'attaques pour nous décourager, nous devons être prêts à lui répondre. Pour lui dire que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Que cette force justement en nous, que cette foi que nous avons en Jésus va nous donner la victoire sur l'ennemi, quelles que soient les attaques que nous allons recevoir sur notre vie et celle de notre famille. Nous devons dire devant l'ennemi et devant aussi le monde entier que la force et la puissance de Dieu est plus grande que la puissance de l'ennemi. Et que nous allons nous battre pour rebâtir, pour relever, réparer et restaurer l'Église. J'aimerais simplement maintenant que nous prenions un petit temps de prière. On va faire simplement une prédication un peu plus courte parce que lorsqu'on lit ce texte de Néhémie, lorsqu'on voit ce que ce peuple a dit, levons-nous et rebâtissons, ils ont été encouragés malgré peut-être la désolation devant eux, malgré ce que l'ennemi était en train d'essayer de les distraire, de les décourager, ils se sont levés. Et ils ont commencé à réparer, à restaurer. Depuis un certain temps, nous essayons justement à l'Église de pouvoir voir comment réparer, revitaliser l'Église. Et on voit comment que l'ennemi aussi peut nous décourager. Nous pouvons voir ce matin le nombre de personnes qui est à l'église ou qui sont sur Zoom. Et on pourrait se dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons chanté aussi tout à l'heure que nous voulons voir Dieu, le Saint-Esprit, délivrer Saint-Henri, délivrer, libérer les captifs pour qu'ils puissent louer le nom du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prendre, on va simplement se mettre ensemble, ceux qui sont sur Zoom, vous allez pouvoir mettre vos micros, et on va prier pour justement de nous lever, pour bâtir, pour contrer justement tous les plans de l'ennemi. Je vois comment que, en tant que personne, et moi le premier, on peut être pris par toutes sortes de choses dans la vie. Et que souvent, peut-être, on garde juste le dernier temps pour le Seigneur, quand on a le temps. Et on a besoin de dire, Seigneur, viens me délivrer, viens me mettre la priorité, viens réparer les brèches que j'ai laissées dans ma vie, dans celle de l'Église, qui ne permettent pas d'être glorifiées, qui ne permettent pas de voir le royaume de Dieu vraiment s'établir. Laissons l'Esprit de Dieu, même si c'est un temps d'écoute, laissons l'Esprit de Dieu nous parler pour nous et pour l'Église. Parce que comme on l'a dit, on ne peut pas se lever, on ne peut pas bâtir si on ne veut pas vraiment le faire. Alors oui, c'est vrai que depuis qu'on lit Néhémie, on a vu un peu les différentes étapes et on va voir dans ces prochains temps encore les autres étapes que Néhémie va faire pour réellement reconstruire la muraille. Je crois qu'on a besoin de s'arrêter en tant qu'Église et de dire, Seigneur, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on veut restaurer l'Église? Est-ce qu'on veut relever notre vie? Est-ce qu'on veut vraiment être entier pour toi? Est-ce qu'on veut vraiment juste t'adorer, te louer toi? Ou est-ce que nous sommes mélangés, nous sommes dans peut-être deux places différentes? Alors prenons simplement un petit temps de prière de 10 minutes à peu près, et que le Seigneur nous inspire, nous montre aussi comment se lever, comment bâtir notre vie et notre Église. Voilà, donc pour ceux qui sont ceux-là dans la salle, on va se rassembler ensemble. Pour ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez donc mettre vos micros et prier les uns avec les autres. Voilà, je vais simplement terminer par la prière. Seigneur, nous te remercier pour ce temps ensemble. Tu nous as permis encore, à travers ta parole, de nous montrer l'importance de se lever pour bâtir, pour rebâtir, pour relever, pour restaurer. Et Seigneur, nous savons que la tâche est grande et c'est seulement par ton esprit que tu vas pouvoir nous aider à le faire. Que Seigneur, que ton esprit puisse continuer de nous inspirer, de nous guider, Seigneur, dans la suite de cette journée, de cette semaine, pour que dans nos vies aussi, nous puissions continuer d'avancer avec toi seul. Qu'on puisse continuer d'être restaurés dans notre relation avec toi et les uns avec les autres. Pour que notre vie soit un témoignage vivant autour de nous. Que le monde reconnaisse que nous t'appartenons. Seigneur, nous savons que l'ennemi va venir nous distraire. L'ennemi va amener toutes sortes de situations, de défis. Et on veut simplement, Seigneur, que tu puisses encore, par ton esprit, venir justement monter cette muraille, apporter les armes nécessaires pour pouvoir se défendre, être capable de résister pour avancer. Nous te remercions, te louons, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui as la victoire. Tu as eu la victoire finale sur la croix. Et nous voulons la proclamer jour après jour. Tu es ressuscité. Et que tu nous donnes ton esprit pour nous guider, pour nous montrer le chemin, pour nous protéger des flammes de l'ennemi, afin que nous puissions continuer de bâtir ton royaume. Alors merci pour ce temps de célébration. Merci Seigneur pour ce que tu as fait en chacun de nous. Et maintenant, Seigneur, que nous allons bientôt nous séparer, nous te prions, Seigneur, justement, que cette protection de ton esprit reste sur nous. Que ta grâce, Seigneur, que ta paix demeure sur nous aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour. Et que nous puissions continuer de marcher les yeux fixés sur toi, dans l'adoration et dans la louange, parce que tu es notre seul Seigneur et notre seul Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Amen.